Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Kader Konaté.
À la une de l'actualité, le Burkina en concertation avec le Programme alimentaire mondial pour la reprise des vols humanitaires suspendus mercredi dernier en raison d'un manque de coordination de l'organe onusien avec les autorités compétentes. Nous en parlons dans cette édition. Une fillette de 3 ans assassinée hier au quartier Sonré de Ouagadougou, le présumé auteur lynché par la population. Le capitaine Ibrahim Traoré était hier au camp Sangoulé-Lamizana pour s'enquérir de l'état de santé des FDS blessés sur le champ de bataille. Le Mali célèbre aujourd'hui, samedi, la toute première journée de la souveraineté retrouvée, un jour chômé et payé instauré par les autorités de la transition. L'invité de la rédaction est Paul Sondo, contrôleur général de police à la retraite. Il est également écrivain. Avec lui, on parle du phénomène de la mendicité à travers son œuvre intitulée « De la mendicité aux opportunités ou aux enfers ». Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonçais en titre, une fillette d'environ 3 ans a été retrouvée morte hier dans le quartier Sonré, arrondissement 7 de Ouagadougou, ont rapporté des riverains et témoins à une équipe de Omega Media. L'individu, soupçonné d'être à l'origine du décès de la petite fille, a été lynché par la population. Plus de détails avec Judith Traoré.
Les faits se sont déroulés vendredi aux alentours de 16h, raconte un témoin. Constatant la disparition de la fillette, une alerte est lancée par ses parents pour la retrouver. Les fouilles ont permis la découverte du corps sans vie de la fille dans la maison du présumé meurtrier, voisin des parents de la victime. Le corps de l'enfant était caché sous le lit, explique une autre personne qui dit avoir été un témoin oculaire. Voyant que l'acte qu'il avait posé a été découvert, le présumé auteur du forfait, la trentaine environ, s'est réfugié sur le toit de sa maison. Et toujours selon les témoins, ce dernier a été appréhendé, trahi par son urine. Il aurait uriné et c'est l'écoulement de ce fluide corporel qui a permis de le débusquer. Après avoir tenté de prendre la poudre d'escampette, il sera très vite freiné dans sa course par un véhicule qui l'a percuté. Incapable de se lever, il est lynché par une foule en colère. Selon les habitants du quartier, l'homme ne serait pas à son premier forfait car beaucoup de choses mystérieuses auraient été retrouvées chez lui.
Les nouvelles du front, la gendarmerie nationale prend à nouveau ses quartiers à Falangoutou. Un an après leur départ et au lendemain de la double attaque qui a ciblé des localités des provinces du Sénou et de l'Oudalan, la gendarmerie nationale est de nouveau de retour dans la commune de Falangoutou, a appris Omega Média de sources concordantes. Le point avec Jean-Paul Ouedraogo.
Le drapeau national a été hissé dans l'enceinte de la gendarmerie à Falangoutou, sous le regard des populations qui ont accueilli avec liesse le retour des Pandores, explique une source contactée par Omega Media. Et toujours selon la même source, les hommes de la commune, pour marquer leur joie, ont débarrassé la cour de la gendarmerie des mauvaises herbes et les femmes, elles ont nettoyé les bureaux de la brigade de la gendarmerie. Une lueur d'espoir après les événements du 11 janvier 2023 qui ont endeuillé la commune de Falangoutou et le village de Goulungoutou, respectueusement dans les provinces du Sénou et de l'Oudalan. En effet, deux volontaires pour la défense de la patrie VDP ont été tués mercredi suite à une incursion d'un groupe armé terroriste à Falangoutou. Après le Sénou, la série noire s'est poursuivie dans la soirée du 11 janvier dans la province de l'Oudalan où 9 personnes, des fidèles et imams, ont été tués dans une mosquée par des individus armés non identifiés.
Pendant ce temps, le capitaine Ibrahim Traoré était hier au chevet des combattants blessés et internés au centre médical des armées, sis au camp général Aboubacar Sangoulé-Lamizana. Le chef de l'État est allé s'enquérir de l'état de santé et des conditions de prise en charge des soldats et VDP blessés au front. Les précisions avec Yagouba Wilio.
Le capitaine Ibrahim Traoré a encouragé et souhaité un prompt rétablissement à ses hommes blessés dans les combats face aux groupes terroristes. Le personnel soignant n'a pas été oublié. Le chef de l'État a déclaré dans ce sens que lorsqu'on est engagé et qu'on sait qu'à l'arrière, on prend soin de vous, on se donne à fond. Des instructions fermes pour une résolution des difficultés urgentes du Centre médical des armées ont été données, peut-on lire sur la page officielle de la présidence du Faso. Une visite qui remonte le moral de l'avis du docteur central des services de santé des armées, le colonel-major Mustapha Sérémé. Elle apportera, selon lui, plus de détermination dans la prise en charge. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour visiter la direction de l'action sociale des armées. Là-bas, il a demandé plus de diligence dans le traitement des dossiers des soldats tombés pour une meilleure prise en charge des familles.
Selon nos confrères de l'AIB, le Burkina est en concertation avec le PAM pour la reprise des vols humanitaires. Les vols humanitaires organisés par le Programme alimentaire mondial ont été suspendus mercredi dernier en raison d'un manque de coordination de l'organe onusien avec les autorités compétentes. Des concertations sont en cours pour la reprise de ces vols. En rappel, des hélicoptères du PAM acheminaient régulièrement des vivres et des non-vivres dans plusieurs localités du Burkina en raison des blocus imposés par des groupes armés terroristes. Souvenez-vous, accusés d'escroquerie aggravée, plusieurs regroupements de commerçants avaient contraint l'ex-ministre du Commerce, Donatien Nagalo, à la démission le 8 novembre 2022. Aujourd'hui, il sort de son silence et donne sa part de vérité. Il s'est exprimé sur la question hier matin à Ouagadougou Moumouniaro pour le compte-rendu.
Donatien Nagalo, secrétaire général du Sinakombe, syndicat national des commerçants du Burkina, avait été nommé à la tête du ministère en charge du commerce le 25 octobre dernier. Aussitôt, plusieurs voix de commerçants s'étaient levées pour contester l'homme. Il va finalement démissionner et remplacer le lendemain 9 novembre. Selon l'accusé, ces agissements ont été à cause de l'incompréhension du fonctionnement du Sinakombe, Donatien Nagalo.
Pour ces accusations, chacun a sa manière de voir les choses. Parce que tout ce qu'on mène comme activité est régi par des tests. En réalité, les gens ne comprennent pas comment nous fonctionnons. Une structure telle que nous sommes n'est pas une structure de M. Nagalo. C'est une coopérative. Les frais d'adhésion au Sinakombe font 6 000 francs. C'est bien et bel écrit dans les statuts depuis la création que c'est 6 000. Mais nous faisons payer 3 000 francs par nos membres. Si vous regardez les reçus là, vous verrez 3 000, 3 000.
Il n'a donc rien à se reprocher, renchérit-il. Par conséquent, la vérité va s'établir un jour ou l'autre, ajoute-t-il.
Ce que les gens ont dit de nous, c'est ce qu'ils pensent de nous. Il y a ce que nous sommes réellement. Il y a ce que les gens pensent que nous sommes. Et il y a ce que nous aussi nous croyons que nous sommes. Mais c'est la vérité qui va se révéler. Il n'y a rien. Nagalo n'a pas pris 5 francs. Au contraire, j'ai mis mes propres ressources. Sur les 1 milliard et quelques d'apports, j'ai apporté 2 fois ou 3 fois ce que tout le Burkina a réuni dans la coopérative. C'est-à-dire que j'ai mis 900 et quelques millions avec preuve à l'appui.
Cette réaction est intervenue lors du bilan des activités des 5 dernières années du syndicat.
Mamadou Bonkungu, président-directeur général du groupe Ebomaf, accompagne la Ligue islamique du Burkina. Cela s'est matérialisé une fois de plus par une remise de 20 millions de francs CFA. La remise officielle de cette somme a eu lieu jeudi dernier à Ouagadougou au sein du siège de la Ligue.
La paix n'a aucune couleur religieuse, a déclaré El Hadj Ousseini Tapsoba, président de la Ligue islamique pour la paix au Faso. Plusieurs activités ont été interrompues pour cause le manque de ressources financières. Ces 20 millions de francs CFA vont résorber un tant soit peu ces difficultés. Il félicite et se réjouit de l'accompagnement du groupement Ebomaf qui va permettre la relance de leur activité.
Dans un premier temps, il nous a remis un quart flambant neuf de 32 places. Chaque année, il amène des membres de la Ligue islamique au pèlerinage. Chaque tabaski, il donne des béliers aux différents cheikhs et aux différents imams. On avait promis de faire des activités. Et compte tenu du manque de moyens, certaines activités n'ont pas pu être réalisées. Nous pensons qu'avec ces moyens-là, on pourra réaliser ses activités sans problème.
Au menu des échanges, il était question pour le président de la LIPF, El Hadj Ousseni Tapsoba et ses camarades, de saluer l'initiative du groupe Ebemwaf. Dans sa mission, la Ligue islamique du Burkina, créée en 2015, est fondée sur la promotion de la paix et des œuvres sociales. Ce fut l'occasion pour ses membres de prier pour le retour de la stabilité au Burkina.
Un compte-rendu signé Moumouni Tamboura. Solidarité toujours, l'artiste musicien Binabié fait don de vivres au SINAMUP, syndicat national des artistes musiciens du Burkina. Le geste de solidarité a eu lieu jeudi à la Bourse du Travail à Ouagadougou. Moumouni Yaro pour plus de détails.
Le don est composé de riz, de pâtes alimentaires et d'huile. Le donateur pense se soutenir soi-même. Binabié, un donateur.
Je suis sympathisant quand même de la structure, notamment le SINAMUP. Bien sûr, j'étais militant avant la création de la coordination des artistes FDS, dont je suis actuellement le président. Aujourd'hui, choisir de remettre un don symboliquement aux artistes musiciens membres du SINAMUP, moi je trouve que c'est juste une voie naturelle. C'est comme se soutenir soi-même.
Cette solidarité entre artistes touche le SINAMUP. Ses membres se disent émus. Al-Mami Akagi est le secrétaire général.
C'est plus qu'un symbole pour nous. Avoir pensé au créateur dans cette période de soudure, dans cette période trouble, c'est un geste très important. Et nous espérons que beaucoup d'autres voix vont se lever pour apporter le soutien de cette même trame, que ce soit à l'endroit des artistes musiciens ou non. C'est un geste qu'il faut saluer parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les artistes musiciens de notre pays n'arrivent plus à parcourir tous les territoires de notre peuple. C'est d'ailleurs valable pour l'ensemble des citoyens.
Binabié est un agent de la douane burkinabé.
À l'international, le Mali célèbre aujourd'hui samedi la toute première journée de la souveraineté retrouvée. Un jour chômé et payé, instauré par les autorités de la transition, en souvenir de la mobilisation du 14 janvier 2022, lorsque les Maliens avaient massivement manifesté contre les sanctions infligées au Mali par la CEDEAO. Cette journée de commémoration est donc l'occasion pour les autorités de tenter de mobiliser derrière elles l'opinion publique. Pourtant, le grand rassemblement, un temps envisagé n'aura pas lieu officiellement pour des raisons de sécurité.
L'invité du jour.
Depuis un certain temps, les feux tricolores de la capitale sont pris d'assaut par des femmes mendiantes avec leurs enfants en bas âge, un phénomène qui pourrait être un danger pour le Burkina qui fait face aux attaques terroristes. C'est ce que nous dit notre invité du jour, le contrôleur général de police à la retraite, Paul Sondo. Ancien directeur général de la police nationale, il vient de publier un livre qui traite du sujet. Le nom de l'œuvre, de la mendicité aux opportunités ou aux enfers. Dans cet entretien réalisé par Denis Ungrana, Paul Sondo nous explique ses craintes.
Paul Sondo, bonjour.
Bonjour, M. Zungrana.
Alors, vous venez de faire paraître un nouveau livre, De la mendicité aux opportunités ou aux enfers. Qu'est-ce qui vous a motivé à traiter ce thème-là?
Nous constatons depuis à peu près 2020 une nouvelle forme de mendicité, telle qui s'est développée dans nos grandes villes et particulièrement à Ouagadougou, et qui consiste à occuper les artères de la ville par des jeunes femmes et des enfants mineurs que l'on engage entre les usagers et la main tendue. Bon, et avec tout ce qu'il y a comme risque, justement cette forme-là, elle est consécutive aux attaques terroristes. Donc on peut les mettre dans le lot des personnes des déplacés internes. Et donc du coup, étant venu par la force et des attaques terroristes, se sont trouvés une activité qui aujourd'hui reste un peu équivoque. Alors on se pose la question, est-ce que véritablement c'est le besoin de survivance qui les font séjourner dans les carrefours ou bien il y a une autre mission, j'allais dire subsidiaire?
Et justement là-dessus, vous vous interrogez, est-ce que ce n'est pas, sont pas leur mission en attendant l'assaut final, selon les termes employés dans votre livre, des groupes armés dont peut-être elles appartiennent également?
Oui, justement, c'est surtout en tant que quand même personnage de sécurité. Et bon, je ne veux pas regarder de façon, j'allais dire naïve, cette présence-là. Parce que lorsque vous voyez des jeunes femmes, depuis 2020 à peu près, continuellement avec des bébés. Bon, et on n'a jamais vu leur mari. Et pourtant, on sait qu'ils font un travail. On se pose la question, et aujourd'hui, nous avons des gens qui se sont enrôlés dans des groupes terroristes et qui nous rendent la vie difficile. Alors, est-ce que ce ne serait pas aussi intéressant de chercher à faire la relation ? Pourquoi leurs maris ne sont pas visibles, ni dans les camps où ils habitent, ni également à côté d'eux ? Alors, on ne les voit pas non plus dans certaines activités au niveau de la ville. Alors, donc, cela est un risque.
C'est un risque, mais on voit que ce sont des femmes avec des enfants, généralement. En quoi est-ce qu'elles peuvent constituer un risque ou une complicité qui pourrait contribuer à aider, justement, leurs maris, si bien sûr ils sont parmi ces groupes armés ?
Le premier risque, c'est la collecte des fonds et la destination des fonds. Parce qu'il nous revient que ces femmes-là ont eu des propositions pour des travaux domestiques où la rémunération même allait souvent jusqu'à 50 000 francs mois. Mais elles ont décliné en disant que ce qu'elles font par jour nettement supérieur à ce qu'on leur propose. Alors, si aujourd'hui il est question que normalement cette mendicité devrait pouvoir les amener à quitter de la mendicité. C'est-à-dire ça devrait pouvoir les amener, dès qu'ils ont l'occasion, ils devraient quitter, sauter là-dessus et ne pas être au bord de la route. Pourquoi elles persistent à y être?
Mais ici, qu'est-ce que l'État devrait faire? Vous parlez de danger.
Bon, d'abord, au nom de la loi numéro 029, je crois, du 15 août 2008, qui traite du problème de la mendicité et qui condamne toute personne qui engage une autre personne, surtout des mineurs, à la mendicité. Déjà, au nom de cette loi, l'État devrait pouvoir agir. Agir pour protéger les enfants mineurs, agir pour réprimer cette forme de mendicité. On doit se baser sur quelque chose par extrapolation pour prévenir, ne serait-ce que pour sauver ces enfants qui sont non seulement déscolarisés, mais qui aujourd'hui sont en train de prendre une voie d'errance préjudiciable même à notre société. Alors au nom de tout cela, on peut le cadrer. Parce que la mendicité doit pouvoir passer le mendiant de la mendicité.
Mais concrètement pour ces femmes-ci, qu'est-ce que l'État peut bien faire? Ah oui. Puisque vous dites qu'elles refusent de travailler même.
Vous savez que ces enfants-là, pas les enfants seulement, même leurs géniteurs-là, c'est une catégorie de personnes qui ne se luent pas vers les documents d'état civil. Et maintenant, on a la chance, ils sont regroupés dans des camps. Alors, pourquoi l'État n'irait pas vers cette communauté-là, essayer de les encadrer, déjà commencer à les recenser, discuter avec eux. On va savoir exactement déceler des potentialités là-bas. On peut déceler des potentialités, mais de là à les observer comme ça, à considérer qu'ils ne font de la mendicité que pour survivre. Et si vous ne savez pas ce qui est caché à l'intérieur. Et les difficultés consécutives à un phénomène ici se résout à son début. Et une fois qu'elle prend de la proportion, ça devient un problème.
Mais avec ces femmes-là, vous ne pensez pas que ça a déjà pris une proportion et ça serait facile?
Mais c'est encore plus facile maintenant qu'après. C'est encore plus facile maintenant parce que vous ne savez pas. Au fur et à mesure, il faut venir les autres. Ça a commencé par quelques femmes. Aujourd'hui, ils sont des milliers. Demain, elles seront combien?
Alors ici, dans votre livre, vous faites cas que dans le passé, certaines forces occultes se sont appuyées sur des mendiants pour pouvoir venir à leur projet. Pour nous revenir sur ces dangers que le Burkina Faso aussi pourrait subir.
Mais oui, vous savez que le problème des renseignements, c'est quoi? Le renseignement humain, c'est quoi? C'est infiltrer quelqu'un au nom de quelque chose pour pouvoir soutirer une information que l'on recherche. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, autant, si elles sont de bonne foi, l'État peut les utiliser pour avoir des informations? Si elles sont de mauvaise foi, alors elles utilisent leur position pour donner des informations au camp adverse. Ça, c'est dans les deux cas. Mais dans tous les cas, si l'État refuse de les exploiter, ils vont exploiter l'État pour les autres. Et ça va compliquer la situation.
On lit votre document. Je pense que la crainte même, c'est qu'on ne sache pas où se trouvent les époux de ces femmes, pourtant avec des bébés au dos qu'elles trimballent au niveau des feux.
Permanemment des bébés. Et c'est ça la réalité. Et on ne voit pas leur mari, puisqu'ils ont leur camp. Les hommes n'habitent pas dans les camps, même au retour de leur mission de mendicité. Alors qu'il y a d'autres catégories de mendiants, où effectivement, quand vous allez à Kaya, même souvent à Pazani, ou des trucs comme ça, vous voyez les femmes le matin, ils envahissent les quartiers. Il y en a qui font des petits travaux, les hommes aussi font des petits travaux. Mais le soir venu, toute la famille se retrouve et ils essaient de voir ce qu'ils ont pu voir et pour résilier un peu à la préoccupation.
On parlait des PDI, des personnes déplacées.
Voilà. Alors donc, du coup, mais ici là, on ne voit que les femmes, on ne voit pas les hommes. Où sont les hommes? Et un phénomène se résout facilement à son état précaire.
Merci Paul Sondo.
Merci beaucoup.
À l'instant, notre invité Paul Sondo, contrôleur général de police à la retraite. C'est la fin de ce journal mis en onde par Edwige Tienrobego à la retransmission Facebook, Ibrahim Niaouné. À la présentation, je suis Abdoulkader Konaté. Bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.